c'est loin, c'est très loin. Je revenais d'Amérique, j'avais quitté le Caracas et je m'entraînais chez un grand professeur de l'époque, Madame d'Alexandrie. Et tous les jours, j'allais faire 4 ou 5 heures d'entraînement, de leçons. Et comme il s'intéressait à la danse, il allait chez l'Alexandrie regarder les leçons, n'est-ce pas? C'est ainsi que je l'ai connu, petit à petit. J'étais assez sauvage, donc j'étais assez longue à accepter de lui parler. Puis finalement, ça m'a semblé très naturel.
Mais vous avez été séduite par le personnage?
Alors, il était extraordinaire.
Comment était-il?
D'abord, il était très... Il n'était pas présent, il était très lointain. Il avait quelque chose de mystérieux. Enfin, j'ai été très impressionnée par son personnage. Il n'était pas là. C'était un être...
Vous pouvez essayer de me le décrire comme vous l'avez connu?
Non, mais sur ses yeux, il avait des yeux tellement... où on sentait tant de... C'était ses yeux qui m'ont attiré surtout. Le personnage était... Oui, non, la silhouette était très, très belle. C'est-à-dire, il avait une allure qui... de souplesse, de... Ses gestes étaient gracieux et moi, je suis très impressionnée par les mouvements. Le pas heurté, il y avait beaucoup de douceur dans ses mouvements. Il était grand, il était très beau, mince. Et tout était dans l'expression de ses yeux. Il était triste. Songeur.
Et vous avez vécu avec lui pendant très longtemps?
Au moment où j'ai été avec lui, je ne l'ai plus quitté. C'était sans doute en 35, 36. Je ne l'ai plus quitté jamais.
Est-ce que vous vous entendiez bien? Vous n'aviez pas de problème?
Moi, je parlais pas. Il n'y a pas de problème. Je ne disais rien, j'écoutais. C'était pas la peine de parler avec lui.
Il parlait beaucoup?
Oui, il parlait. Il se laissait aller. C'est-à-dire, c'était pas... Il n'attendait pas de réponse. Alors, nous entendions très bien. Comme moi, je suis pour le geste, et je n'ai pas besoin de parler. Ça me suffisait. C'était parfait pour moi. Et c'est ce qu'il demandait. Il n'avait pas besoin qu'on lui parle. Quand il travaillait, il me lisait donc le chapitre le soir de son travail, oui. N'est-ce pas, pour sentir, d'abord sans doute pour s'entendre lui-même, puisque oui. Tout était rythmé, c'était donc un rythme, une musique. Oui. Et en même temps, sans doute pour... Moi, je ne pouvais pas donner mon avis, mais enfin, peut-être, il essayait de voir l'effet que ça pouvait faire. Ouais.
Quand il écrivait quelque chose, il faisait plusieurs versions, je crois, non?
Il recommençait sans cesse son ouvrage jusqu'à temps qu'il le sente.
Oui.
Alors donc, il faisait des ratures, mais à chaque fois, il reprenait le tout. Il recommençait. Il arrivait à faire 10 fois certainement le livre, avant de terminer. Il n'était jamais content. Je crois qu'il aurait pu le faire éternellement. Enfin, à un moment donné, il s'arrêtait. Mais c'était des reprises et des reprises du livre en entier.
Vous ne vous êtes jamais ennuyé avec lui?
Pas une seconde. Enfin, lui, maintenant, beaucoup.
Et qu'est-ce qu'il admirait le plus dans la vie? Enfin, qu'est-ce qu'il trouvait
la légèreté, les choses qui sont... La poésie. Il aurait rêvé d'être poète, mais seulement poète. La poésie, quoi, la musique. Il était musicien. Avant tout, c'était un musicien.
Votre mari avait bien des défauts. Vous avez le portrait d'un homme idéal. Un homme idéal, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il avait comme défaut?
Il n'aimait pas qu'on s'occupe de lui, c'était un des... Mais c'est le principal, c'était très important. Peut-être. Il était assez brusque à cause de ça.
Avec vous aussi?
Toujours. Oui, il n'aimait pas qu'on s'occupe de lui.
L'amour, ça avait une grande importance dans sa vie.
Aucune. Enfin, aucune, je ne sais pas comment vous le prenez.
Comment vous le prenez-vous?
L'amour au cinéma, par exemple, enfin, c'était pas du roman, il n'aimait pas faire de roman.
À propos de cinéma, il allait souvent au cinéma ou jamais?
Il y avait 5 minutes, il avait compris, ça m'allait.
Votre vie avec votre mari, vous pourriez m'en parler un peu, je sais pas, quelques anecdotes.
De notre vie, elle était très simple. Je crois qu'un jour ressemblait à tous les autres jours. Il ne dormait presque pas, donc il était très fatigué à 7 heures. Il fallait qu'il se trouve enfermé dans sa chambre pour se reposer, s'endormir. Moi, je ne faisais pas de bruit, je restais là. Et je travaillais donc mes sondes toute la journée, j'étais assez fatiguée aussi. Et nous avions une vie toujours la même, nous ne sortions jamais. Et il lui travaillait. C'est tout qu'il avait un peu de force, il se remettait à sa table. Autrement, il pensait sans doute à son travail, naturellement, toujours.
Mais quelles étaient les compensations pour vous mettre à cette vie?
Simplement, je le voyais, de temps en temps, il m'appelait, nous parlions. C'est tout. Et ça me suffisait, d'ailleurs. Comme il ne sortait pas, il cherchait peut-être à travers moi à savoir un peu ce qui se passait, ce que je voyais à la télévision, ce que j'entendais. C'était tous ses rapports avec le monde, il n'en avait aucun. Il aimait les gens, mais il a tout de suite senti que, en effet, que quand on allait au bout des choses, on était totalement abruti. Il faut être léger, il faut s'en fiche un peu. Et vers la fin de sa vie, il regrettait d'avoir été pas un petit peu plus insouciant.
Et il vous en a parlé?
Oui, il en parlait tout le temps.
Oui, qu'est-ce qu'il disait à ce propos?
Il disait qu'il avait pris la mauvaise direction, c'est tout.
Et qu'est-ce qu'il aurait souhaité?
Oh! Dans la vie, il disait qu'il faut être boxeur et jouer de l'accordéon.
Pourquoi?
Parce que comme ça, on s'amuse et puis on se défend.
L'argent avait une grande importance.
Parce qu'il le détestait, il le méprisait, absolument. Et je l'ai vu en maintes occasions, il en parlait tout le temps, mais on aurait pu lui offrir des sommes les plus fantastiques. Lui qui aimait tant sa liberté, ça aurait pu lui permettre absolument de faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire partir sur le bord de la mer, il n'aimait que l'eau et les bateaux.
Oui,
donc l'argent, pour lui, c'était l'indépendance et de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire partir sur un bateau. Et puis c'est tout, disparaître dans la mer.
Ma mère l'admirait, mon oncle. Elle aurait voulu que je lui ressemble. Il me fallait tout de même un modèle. Mon oncle, à défaut de mon père, était encore un idéal. Elle me disait pas ça crûment, mais elle me faisait des allusions. Papa, c'était pas son avis, qu'Edouard ce soit un idéal. Il le trouvait très idiot, complètement insupportable, mercantile, d'esprit extrêmement vulgaire, toujours à se réjouir de conneries. Avec ses fourbis mécaniques, son bazar automobile, ses tricards, ses pompes biscornues, il lui portait sur les nerfs, il l'agaçait terriblement, et rien qu'à l'entendre causer. Edouard, il devait bien se rendre compte. C'était tout de même évident. Il endurait l'antipathie. Il voulait rien envenimer. Il pensait toujours à sa sœur. Il agissait très discrètement. Il passait juste un petit instant pour demander des nouvelles. si maman allait un peu mieux, il restait tout préoccupé à cause de sa mine affreuse, des fardeaux, des monuments qu'elle bourlinguait à la sauvette. Elle en restait après ça des journées entières toutes gémissantes et perclues. Ça le souciait, lui, de plus en plus. Comme son état empirait à la fin, il s'est décidé. Il en a causé à mon père. À force de parler ensemble, de discuter tous les trois, ils sont tout de même tombés d'accord qu'il était grand temps qu'elle se repose, que ça pouvait plus continuer. Mais la reposer comment ? Ils ont découvert un moyen qu'on prendrait une femme de ménage, par exemple, 2-3 heures par jour. Ça serait déjà un soulagement. Elle monterait beaucoup moins les étages, elle balayerait plus sous les meubles, elle ferait plus les commissions. Mais dans notre état actuel, c'était une dépense impossible. C'était une folie, un projet en l'air. Ça deviendrait seulement faisable que si moi, je trouvais du boulot. Alors avec ce que je gagnerais, qui tomberait quand même dans la caisse, pourrait peut-être, le terme payé, envisager la boniche. Ça donnerait à maman de la marge. Elle se décarcasserait plus autant, elle aurait moins à cavaler. Ils avaient trouvé ça tout seuls. Ça leur plaisait comme décision. Ça faisait appel à mon bon cœur. On allait me mettre à l'épreuve. C'était fini d'être égoïste, pervers, insolite. J'allais avoir aussi mon rôle, mon but dans la vie. Soulager maman. Presto, charger, foncer sur un business. Aussitôt qu'on aurait douillé mon costat ad hoc, piqué rapidos, une embauche, et en avant la performance, plus d'erreurs, plus de tortillages, la musique, plus de questions, la valeur individuelle, la persévérance, j'en manquerai pas, nom de Dieu, c'était un but admirable, je croyais déjà que c'était fait. Fournir mon effort suprême. Forcer ma chance et mon destin. Que c'était le moment ou jamais pour orienter ma carrière. Ça, c'était excellent. C'était bien joli. J'avais beau enlever mon costard, mon col, mes godasses, je transpirais de plus en plus. J'avais de la sueur en rigole. Je prenais les chemins que je connaissais. Je suis repassé devant chez les Gorloges. Ça m'en refoutait les grelots de revoir leur tôle et la porte cochère. Rien qu'à penser à l'incident, j'avais la crise au trou du cul. Quel souvenir. Devant l'énormité de ma tâche, en réfléchissant comme ça, je perdais tout en train, j'aimais mieux m'asseoir. Les sous, j'en avais plus beaucoup pour prendre des petits bocs, même les verres à 10 centimes. Je restais sous les voûtes des immeubles. Ils avaient toujours beaucoup d'ombre et des traîtres courant d'air. J'ai éternué énormément. Ça devenait un vice pendant que je réfléchissais. Force d'y penser, à la fin, toujours et sans cesse, je lui donnais presque raison à mon père. Je me rendais compte, d'après l'expérience, que je valais rien du tout. J'avais que des penchants désastreux. J'étais bien cloche et bien feignant. Je méritais pas leur grande bonté, les terribles sacrifices. Je me sentais là tout indigne, tout purulent, tout véreux. Je vois bien ce qu'il aurait fallu faire. Et je luttais désespérément, mais je parvenais de moins en moins. Je me bonifiais pas avec l'âge.
No sé de qué hablar en una radio. Yo no sé, pa. qué. Pero algo... que he aprendido... piensan. Onapo. O justo Gigma al compás de... Opa, no. Opa, no. Cochos. Thank you.
et lui permettre par ailleurs de travailler plus sereinement pour la sécurisation des populations.
Le représentant du directeur général de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Nick Bakoma, lui exprime sa satisfaction de voir la pose de la première pierre des nouveaux bâtiments de la gendarmerie qui répondra aux standards internationaux et aux exigences de la ministre.
Sont stigmatisés et même rejetés pour certains par leur entourage, ce qui ne favorise pas leur plein épanouissement. Floriana Léontine, sois la paix.
Ces enfants ont rempli de vie, son retour chemin faisant.
Do su que você vive. Me dis ya quel cochos pude api e coyupue budie. Vive, vive la vi, experimente, lute, greve, dubo e dimode o napo. Si budi pose, fatlu. Fedlu. Brille. Adgape. Adgape. O justo gigma. Dosuki bofe bipre.
Si lo piensan, hagan, logren, sean uno mismo al compadre que es lo que les haga, hagan vibrar.